Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, voici votre magazine d'information avec Souada Karmani. La Syrie secouée par de violents affrontements entre groupes communautaires, entre combattants druzes et tribus des bédouines sunnites depuis dimanche. Un cessez-le-feu a été annoncé par le ministre syrien de la Défense. Explication dans votre magazine. En France, le Premier ministre François Bayrou a dévoilé cet après-midi les orientations du budget 2026 examiné au Parlement à l'automne. Il entend notamment maîtriser les dépenses publiques et sociales. Il propose la suppression de 2 jours fériés. Washington relance son aide à l'Ukraine après des mois d'incertitude. Nous commencerons par le point sur l'actualité, puis nous développerons les dossiers du jour. Le ministre syrien de la Défense a annoncé ce mardi un cessez-le-feu total à Souaïda, cette ville à majorité druze dans le sud de la Syrie. Elle a été le théâtre d'affrontements entre combattants druzes, bédouins sunnites et troupes gouvernementales après l'enlèvement d'un commerçant druze par des bédouins selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bilan depuis dimanche, au moins une centaine de morts, dont 12 civils druzes tués par l'armée syrienne. De son côté, l'armée israélienne a attaqué plusieurs chars près de la ville de Souaïda. L'État hébreu ne permettra pas la présence militaire dans le sud de la Syrie. Ces chars pourraient constituer une menace pour l'État d'Israël, a averti l'armée israélienne. Nous ne permettrons pas que du mal soit fait aux druzes, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Pas de répit dans la bande de Gaza, au moins 22 morts ce lundi, selon la défense civile, dans de nouveaux bombardements israéliens. Ces frappes surviennent alors que les négociations entre Israël et le Hamas sur un cessez-le-feu sont dans une impasse. Dans la bande de Gaza, 7 agences onusiennes ont averti que la pénurie de carburant dans l'enclave avait atteint un niveau critique et constitué un nouveau fardeau insupportable pour une population au bord de la famine. À Bogota, en Colombie, ce sont plus de 30 pays réunis pour tenter de mettre fin au drame dans la bande de Gaza. Une initiative du groupe de l'AE, ce sont donc des États engagés pour défendre le droit international et la solidarité avec le peuple palestinien. Objectif, exiger des mesures concrètes contre Israël en solidarité au peuple palestinien. Et au Liban, l'armée israélienne a frappé dans la plaine de la Beka ce mardi, située dans l'est du Liban. Malgré un accord de cessez-le-feu en vigueur depuis novembre, bilan 12 morts. Au Kurdistan irakien, une explosion est survenue dans un champ pétrolifère. Conséquence, la suspension des opérations, a indiqué la société américaine HKN Energy, qui exploite le champ. La cause de l'explosion n'a pas encore été précisée. Et sur le dossier nucléaire iranien, la République islamique annonce que les négociations n'auront pas lieu si Washington insiste sur l'abandon de l'enrichissement de l'uranium. L'Union européenne examine un ensemble de mesures à prendre éventuellement contre Israël pour sanctionner la violation des droits humains dans la bande de Gaza. Plusieurs options sont mises sur la table. La suspension de l'accord tout entier, l'interdiction des exportations en provenance des territoires palestiniens occupés, la révision de la politique de visa ou encore la suspension de la partie commerciale de l'accord d'association. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent aux principaux dossiers de votre magazine d'information. Vous êtes à l'écoute de Radio Orient et voici notre tour de l'actualité. L'armée syrienne est entrée dans le fief druze de Souaïda suite à de violents affrontements communautaires entre combattants druzes et tribus bédouines. Des affrontements qui ont fait une centaine de morts. Entretien avec Elie Masbouji, journaliste président d'honneur de l'Association de la presse étrangère, président de Trilogue News.
Après les massacres des minorités alaouites et l'attentat à la bombe contre une église orthodoxe à Damas, le feu semble gagner Souaïda en raison de la situation ethnique. Donc la ville de Souaïda est peuplée entièrement de druzes et le nouveau pouvoir à Damas n'arrive pas à étendre son autorité sur cette région.
Alors, sachant qu'un cessez-le-feu a été annoncé ce mardi par le ministre syrien de la Défense.
Oui, alors deux pressions sur le régime de Damas au sujet de Souaïda. La première, c'est la pression israélienne qui réclame la protection des communautés druzes, tout simplement en annexant la ville de Souaïda pour la rattacher au Golan occupé, lui aussi copeuplé essentiellement de Druze. Donc les combats seraient peut-être, non pas la première étincelle, mais le début de ce cyclone qui risque de gagner toute la Syrie. D'autant que le gouvernement central intérimaire elle n'arrive pas à contrôler la sécurité, même pas dans les villes, à l'intérieur des villes. Donc, il y a un grand risque d'un embrasement, déjà entre les Druzes et les éléments armés qui sont, paraît-il, de la police ou des forces de sécurité syriennes, des engagements qui ne sont pas prêts de s'arrêter et qui laissent en tout cas, qui laisseront en tout cas de graves conséquences si jamais, même si jamais on arrivait à cesser le feu. Par ailleurs, quand on parle de Druze, on parle du Liban, bien entendu. Et la réaction des Druzes libanais n'a pas tardé. Elle est en faveur du régime syrien, c'est-à-dire de la protection des communautés druzes de Syrie par l'autorité syrienne. Ce n'est pas une chose facile.
En Cisjordanie, la France souhaite que l'Union européenne sanctionne les colons extrémistes israéliens. Une très large majorité d'États membres y est favorable, mais l'adoption de ces sanctions requiert l'unanimité. Or, la Hongrie a opposé son veto. On écoute à ce propos Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
Ce que nous attendons dans l'immédiat du gouvernement israélien, la levée du blocus financier, la fin de la colonisation, le renoncement au projet E1, qui est un projet funeste, et puis évidemment le cessez-le-feu immédiat. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, comme j'ai eu l'occasion de le dire à Paris, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Je crois que l'Union européenne s'honorerait à suivre, je dirais, les orientations que nous avons proposées, de sanctionner les individus, entités responsables de la colonisation, extrémistes et violentes, et à cesser toute forme de soutien financier direct et indirect à la colonisation.
El Barreau, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donald Trump a donné à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères. Il menace d'appliquer une surtaxe douanière de 100% contre la Russie et ses alliés en cas d'absence de cessez-le-feu. Dans le même temps, le locataire de la Maison-Blanche hausse le ton face à la Russie en annonçant un réarmement massif de Kiev à travers l'OTAN. Le Kremlin se dit prêt à négocier avec l'Ukraine tout en précisant avoir besoin de temps pour répondre aux déclarations de Donald Trump. Pékin, de son côté, déplore une coercition qui ne mène nulle part. Les explications avec Salma Dahlaoui.
Donald Trump s'est dit déçu par Vladimir Poutine à propos de la guerre avec l'Ukraine. « Je pensais que nous aurions un accord il y a 2 mois, mais ça ne semble pas se concrétiser », a déclaré le président américain à la Maison-Blanche, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Pour forcer la main du président russe, Donald Trump va mettre en place des droits de douane secondaires, c'est-à-dire contre les alliés de Moscou. Et il a donné un calendrier précis. Si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours, c'est très simple, les droits de douane seront à 100%. Principal pays visé, la Chine, mais aussi l'Inde, la Turquie et le Bélarus. Concernant l'armement de l'Ukraine, Donald Trump a annoncé un très gros contrat. Des équipements militaires d'une valeur de plusieurs milliards de dollars seront achetés aux États-Unis et transférés à l'OTAN pour être rapidement distribués sur le champ de bataille. Donald Trump souligne que cela ne coûtera pas un centime aux États-Unis. Les pays acheteurs de ces équipements seront l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Finlande, le Canada, la Norvège, la Suède et le Danemark. Selon Mark Rutte, la rapidité des livraisons sera essentielle pour pousser Vladimir Poutine à négocier la paix. Volodymyr Zelensky a salué cette annonce. Le président ukrainien a exprimé sa reconnaissance envers son homologue américain pour son soutien à la protection des vies ukrainiennes.
Merci Salma Dahlaoui. En France, le Premier ministre François Bayrou a dévoilé les orientations du budget 2026 examiné au Parlement à l'automne. Parmi les annonces, près de 3000 postes en moins dans la fonction publique. Le barème de l'impôt sur le revenu sera par ailleurs maintenu en 2026 au niveau de 2025. Autre annonce, une contribution de solidarité sera créée. Et une annonce qui va susciter de nombreuses réactions. François Bayrou propose la suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai. Le Premier ministre François Bayrou fait part de la situation économique de la France.
Il y a plus de 50 ans que notre pays, tout courant politique confondu, n'a pas présenté un budget en équilibre. 50 années que nos dépenses publiques dépassent chaque année les recettes. Et peu à peu, on s'est habitué à ce déficit, et cette habitude du déficit a gagné aussi ce qui est invraisemblable, les budgets sociaux, santé et retraite qu'on devrait pourtant assumer ensemble chaque année. Et les collectivités locales contribuent, par leur dynamisme même, aux besoins de financement public. Or, le déficit en soi, ça n'existe pas. Le déficit, c'est purement et simplement de la dette. C'est comme ça dans toutes les familles, c'est comme ça dans toutes les associations, dans toutes les entreprises. Ce qu'on dépense en plus de ses revenus, en plus de ses ressources, il faut l'emprunter. Alors, encore faut-il savoir à quoi servent les sommes empruntées. Si dans votre famille, vous avez de quoi boucler les fins de mois sans difficulté et que vous empruntez pour l'avenir, pour construire une maison ou pour investir dans un appartement ou dans de nouvelles technologies ou des équipements, tout va bien. C'est normal, c'est un effort bien sûr, mais c'est un effort pour la famille, pour l'entreprise, c'est le développement, l'éternel mouvement des êtres humains.
C'était le Premier ministre François Bayrou. L'allongement de la rétention administrative définitivement adopté, un ultime vote du Sénat a permis la semaine dernière de prolonger la durée de rétention d'étrangers jugés dangereux de 90 à 210 jours, malgré l'opposition de la gauche et des associations. Je vous propose d'écouter Pierre Henry, président de l'association France Fraternité et ex-directeur général de France Terre d'Asile.
Oui, 210 jours sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur. Mais cette affaire est parfaitement documentée. On sait très bien que si on n'obtient pas un laissez-passer du pays d'origine dans le mois de la mise en rétention de la personne dangereuse, on ne l'obtiendra pas après. Et donc mettre des personnes 210 jours en rétention, ça ne va rien changer, ça va simplement emboliser un peu plus les centres de rétention, et ça ne fournira absolument aucune solution crédible. Donc la question de l'éloignement des personnes dangereuses est une question qui se pose. Moi, je vous dis très franchement que des gens qui sont rendus coupables de crimes et délits particulièrement graves mettant en cause l'ordre public sur le territoire national ne me pose aucun problème. Mais faire croire à la population qu'on va résoudre cette question en allongeant la durée de rétention administrative, c'est tout simplement un mensonge et de la démagogie. Voilà, parce que ça ne résoudra strictement rien, c'est par la voie diplomatique, avec les pays concernés, que l'on peut régler ce type de problème. Pas en faisant des redemandades et des déclarations tonitruantes sur les plateaux.
C'était Pierre Henry, président de l'association France Fraternité et ex-directeur général de la France, de France Terre d'Asile. En France, un service militaire volontaire va être mis en place face à un contexte international de plus en plus tendu, marqué notamment par la guerre en Ukraine et la menace russe à l'est de l'Europe. Les explications de Salma Dakhlaoui.
Emmanuel Macron l'a affirmé, il faut donner à la jeunesse l'occasion de servir, mais aussi offrir une masse supplémentaire aux armées en cas de crise, alors que la conscription obligatoire a été suspendue depuis 1997. Concrètement, ce service militaire volontaire s'adresserait aux Français majeurs qui recevraient une formation de base avec la possibilité de s'engager davantage par la suite. Actuellement, un dispositif similaire existe depuis 2015 mais ne concerne qu'un millier de volontaires par an, principalement pour l'insertion professionnelle. L'ambition est de créer un réservoir beaucoup plus large, entre 10 000 et 50 000 jeunes par an, selon les scénarios étudiés. Objectif, renforcer la cohésion nationale et disposer d'une réserve mobilisable rapidement, tout en répondant aux besoins croissants en effectifs des armées françaises, qui comptent aujourd'hui 200 000 militaires d'actifs et 47 000 réservistes, avec un objectif de 210 000 et 80 000 d'ici 2030. Mais ce projet fait débat. Pour certains spécialistes, comme la sociologue Bénédicte Chéron, l'effet sur la cohésion sociale serait limité, le volontariat attirant avant tout des jeunes déjà sensibilisés aux questions de défense. Emmanuel Macron annoncera ses décisions définitives à l'automne. Elles concerneront aussi l'avenir du service national universel, aujourd'hui réservé aux 15-17 ans et en perte de vitesse.
Merci Salma Dahlaoui. Et à l'approche de la rentrée scolaire, l'UFC Que Choisir tire la sonnette d'alarme. Les prix des fournitures scolaires restent trop élevés en 2025. Malgré un recul des coûts des matières premières, les consommateurs n'en voient pas les effets sur les étiquettes. Les précisions d'Arthur Claude Savoie.
C'est une mauvaise nouvelle pour les familles. Selon l'UFC Que Choisir, les prix des fournitures scolaires repartent à la hausse en 2025. Après une courte période de calme en 2024, les tarifs ont grimpé de 2% cette année, d'après une analyse menée sur 118 produits. En effet, c'est plus de 40 articles qui ont vu leur prix augmenter d'au moins 2%, contre seulement 23 qui ont baissé. Pourtant, les matières premières comme la pâte à papier ou le pétrole, utilisées dans la fabrication de cahiers ou de stylos, ont vu leur prix chuter. Mais cette baisse ne se reflète pas en rayon. C'est ce que déplore Noé Baudouin, chargé d'études à l'association. Quand les matières premières flambent, les prix montent tout de suite, a-t-il déclaré à l'AFP, avant de rajouter qu'en revanche, quand elles baissent, on ne voit clairement pas la différence. L'UFC Que Choisir alerte aussi sur un pic inattendu des prix début septembre, juste avant la rentrée. Son conseil est clair, mieux vaut faire ses courses durant l'été, même si les familles préfèrent souvent attendre les consignes des enseignants. Un choix qui pourrait bien alourdir la facture à la dernière minute.
Merci. Merci Arthur Claude Savoie. C'est la fin de votre édition. Merci de votre écoute. Merci à Anis pour la réalisation. C'était Swada Kermani et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.